Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, bienvenue sur la route du Tour de France. Et oui, après une journée de repos, c'est reparti pour un tour, pour une dernière semaine décisive qui va nous livrer donc le vainqueur de ce Tour de France dimanche prochain sur les Champs-Élysées. C'est vrai que le suspense reste entier. 16e étape aujourd'hui, 178 km 500 entre Carcassonne et Foix. Nous entrons dans les Pyrénées, première partie du triptyque pyrénéen avec notamment demain et après-demain les grosses, énormes étapes arrivées à Peyragudes et à Otakam. Aujourd'hui, c'est une sorte de mise en bouche avec tout de même de sacrées olives à avaler, notamment tout à l'heure le mur de Péguerre dont on vous parlera. Ils sont venus, ils sont tous là, de retour après une journée de repos, enfin pas de repos pour tout le monde puisque Cyril Guimard a travaillé l'espace de 15 minutes hier quand même, hein. Pas mal pour une journée de repos. Ça va Cyril ?
Oui, bonjour, ça va très très bien. Je suis un petit peu fatigué parce que c'était pas 15 minutes mais 25. Donc les 10 minutes supplémentaires, ça a été très difficile à tenir la distance.
Ah oui, surtout avec la chaleur, c'est pas bon pour
vous. Heureusement que tu avais fait 2h40 de sieste quand même. T'aurais pas de
choc. Oui, je revendique d'avoir fait 2h40 de sieste. J'aurais bien fait même plus, mais bon, à un moment, il faut un petit peu se réveiller.
Alors, il y a eu journée de repos, mais il y a aussi une journée de fiesta. C'est le cas de Jérôme Coppel qui a quand même fait la fête 2 soirs de suite, couché 3h du matin et hier soir un peu plus tôt.
Toujours plus. Salut Christophe, salut à tous. Oui. Toujours plus, monsieur plus. Non, même pas. Non, on a été sages quand même.
Vous avez été sages?
Oui, très sage. Mais nous, on n'est pas invités dans tous les dîners de gala du Tour de France, monsieur Christophe.
Je représente la société. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça.
Hein,
il faut bien faire acte de présence. Pierre-Yves Leroux, petite mine ce matin.
Absolument pas. Moi, j'ai travaillé toute la journée, préparé des rubriques pour aujourd'hui, révisé mes fiches, rayé tous les noms des garçons qui ne sont pas au départ aujourd'hui. Et oui, Christophe, j'avais pas le temps d'aller à la plage, moi, avec Marco. Hein, on voit ceux qui sont bien,
oui,
bien placés.
Magnifique. Mais je ne vais à la plage qu'avec des maîtres nageurs, autrement je n'y vais pas. C'est comme ça. Arnaud, donc, sur la moto, en compagnie de Marco. Il n'a pas pris trop de coups de soleil, ton pilote, aujourd'hui, Arnaud ?
Non, ça va. Pour l'instant, il a les bras tellement bronzés que de toute manière, là, le soleil se reflète sur lui. Salut à toutes et à tous, salut les amis. On n'a pas pris de coup de soleil, mais on a quand même pris un petit coup de chaud déjà parce qu'on a 35 degrés au thermomètre aujourd'hui sur la moto. Voilà mon petit point température quotidien. Mais ça va baisser dans quelques minutes quand on va monter à 1500 mètres d'altitude au port de Lers. On va se rafraîchir un petit peu et ça fera pas de mal. C'est quand même bien plus supportable que ça ne l'était avant-hier entre Rodez et Carcassonne.
Ah, c'est pas facile de faire de la moto au lendemain de 2 soirées difficiles, Arnaud, quand même. Hein.
Oh si, ça va très très bien. Écoute, voilà, j'ai refait les batteries un petit peu, tu vois. On s'est détendu effectivement dans les remparts de Carcassonne. C'était pas mal. Voilà.
J'imagine, j'ai eu ouï dire.
Ça va, toi, t'as pas trop de mal?
Ah non, moi nickel, couché à 23h30 hier soir.
Ah oui.
Parfait.
Ah ouais.
Ouais, okay. Bien sûr. Voilà. Tu veux aller en savoir plus?
On a fait des petites bombinettes à 2h du matin dans l'hôtel.
Bravo, vous avez réveillé tous les clients. Voilà. J'espère qu'il n'y avait pas de coureurs du Tour de France dans le même hôtel que vous quand même.
Je crois que c'était devant la chambre de notre cher chargé de production Bruno
voilà. C'était le premier à faire des bombes, hein.
Notamment donc. Voilà, on a fait des bombes. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer, puis je sais que tu aimes faire ça, Christophe, mais j'en profite pour saluer vraiment chaleureusement le 37 qui nous a accueillis l'autre jour, dimanche soir à Carcassonne. Voilà, ouais. On a été très bien reçus.
Ouais, ça, c'est sûr. C'est ils aussi ont payé ça, des coups à boire jusqu'à 4h du matin, donc t'as raison de les saluer.
On est dans le sud-ouest. Voilà.
Eh bien, il y en a qui ont vraiment la belle
chose
vie.
Chose promise, chose faite.
C'est bien, c'est une vraie journée de repos, une vraie journée de relaxation totale. Cyril, quand tu entends ça, heureusement, quand tu dirigeais tes équipes, c'était plus sérieux qu'aujourd'hui. Hein.
Moi, je me rends compte d'une chose, c'est que vous êtes tous des gros moteurs, quoi.
Ah bah énorme.
Énorme moteur. Et je me demande d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait ici? On devrait être dans le peloton, là.
Bah ouais, on va peut-être s'entraîner pour l'année prochaine. Déjà, voilà.
Tu sais, nous, de toutes les matières, c'est les watts qu'on préfère. Hein.
Très bien, c'est donc la 16e étape. On va quand même s'intéresser à la course, si vous le voulez bien. 16e étape de ce Tour de France. Il s'est passé pas mal de choses hier et aujourd'hui. Pierre-Yves, on rappelle donc plusieurs non partants ce matin après avoir été testé positif au Covid. Et puis, les conséquences aussi de l'étape d'avant-hier. Cette chaleur énorme et ces gamelles en fin fin d'étape. Bref, le peloton s'est délesté de quelques-uns de ses concurrents ce matin.
Oui, et le peloton maigrit petit à petit. Plus on se rapproche des Champs-Élysées.
Il a de la chance, lui.
C'est pas le cas de tout le monde. Mikhaïl Morkov, on le rappelle, avait été hors délai, accueilli sur la ligne par Christian Prudhomme, qui avait tenu à saluer son courage. Ça, c'était avant la journée de repos. Et puis, on a eu des positifs au Covid annoncés ce matin. Mikhaïl Schirel, Aurélien Paré-Peintre pour l'équipe AG2R, Max Walscheid également pour l'équipe Cofidis, et puis des garçons qui sont malades ou blessés. Lennart Kamna a un gros rhume persistant, et puis Jakob Fuglsang souffre d'une fracture d'une côte. Voilà des garçons qui ne sont pas au départ aujourd'hui du côté de la ville de Carcassonne. Donc voilà, quand même pas mal de coups durs, notamment on pense à l'équipe AG2R, puisqu'ils ne sont plus que trois désormais, avec simplement Stan De Wulf, Bob Jungels, et puis le dernier dans cette équipe, eh bien, c'est Benoît Cosnefroy, voilà, le français, exactement. C'était arrivé l'année dernière hein, à l'équipe Arkea Samsic, qui s'était retrouvée réduite à trois coureurs aussi, avec Eli Gébert de son prénom, et Quintana et Swift.
Cyril, ça t'est déjà arrivé comme ça dans une fin de Tour de France de ne plus avoir que trois coureurs en lice? Est-ce qu'on garde tout de même le même encadrement, ou est-ce qu'on renvoie du monde à la maison?
Et le bus
et le bus, il est un peu vide.
Oui, ça m'est arrivé, oui, ça fait partie des choses qui arrivent dans n'importe quelle ou dans toutes les équipes à certains moments, surtout lorsqu'on est là sur la durée. Oui, c'est arrivé, mais on avait été aidé pour se retrouver à trois avec le règlement.
C'est-à-dire?
Car c'est l'époque où on éliminait le dernier du classement général.
Voilà. Tous les soirs.
C'est à l'américaine, en quelque sorte.
Voilà, donc le dernier, là, la lanterne rouge, on la décrochait du dos du dernier pour la mettre sur l'avant-dernier, qui le lendemain allait être le dernier.
Tous les soirs, ça arrive.
Oui, tous les soirs. Oui.
Ça n'a pas dû durer longtemps.
Non, ça n'a pas duré très longtemps, non, effectivement, mais c'est un principe qui avait déjà été utilisé 30 ou 40 ans plus tôt. Et parce que, bon, ça faisait suite aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'une guerre entre des coureurs organisés et administrés par Raphaël Geminiani avec Blocher, et puis je ne sais plus qui était l'autre coureur qui se battait pour la lanterne rouge. Donc M. Lévitant et M. Godin n'avaient pas apprécié ce genre de choses. Donc l'année d'après, le règlement avait changé, le dernier sautera. Et le dernier qui a d'ailleurs sauté, c'était Bernard Kilfen.
D'accord.
Qui avait été repêché la veille suite à une chute, et parce qu'étant blessé, on avait fait preuve d'un peu d'humanisme.
On ne tire pas sur une ambulance.
Et donc il était reparti le lendemain, mais toujours blessé, puisqu'il avait des côtes fracturées. Et le lendemain, malgré toute une stratégie mise en place pour essayer de ne plus être dernier, ça n'avait pas marché. Ouais. Donc Kilfen, en plus, avait été le dernier, puisqu'on était à deux jours de l'arrivée, et que les deux derniers jours, on n'éliminait pas.
Ton plus mauvais résultat sur le Tour de France, Cyril, à part quelques abandons? On se souvient, je veux dire, de ces classements dans le Tour. Jérôme, par exemple, ton plus mauvais.
Oh, je me rappelle pas du tout.
Tu te rappelles plus du meilleur, finalement.
Bah, bien sûr. Déjà, ça arrive pas souvent.
Tu nous as dit troisième la dernière fois.
Troisième, quand même. C'est le podium.
Ouais, mais vous en rappelez même pas. C'est ça.
Treizième.
Non, le plus mauvais, je me rappelle pas. On se rappelle des abandons ou du meilleur résultat, en général.
Ouais. Et, évidemment, c'est aujourd'hui, il y a un moment aussi où essayer de décrocher la lanterne rouge, c'était un peu honorifique dans le Tour de France, comme le disait Cyril, tout le monde.
Oui, parce que je crois qu'il y avait même une prime à une époque.
Oui, il y avait une prime. Enfin, il y avait surtout, et ce qui était important,
ah oui,
c'est que quand vous terminiez dernier du Tour de France, donc lanterne rouge, eh bien, vous faisiez tous les critériums.
Eh oui, vous étiez invité, alors que l'avant-dernier, on n'a rien à faire.
On n'a rien à faire de l'avant-dernier. Attends, quel prestige il a, l'avant-dernier. C'est quand même pas faire preuve de panache que de faire avant-dernier. Mais dernier, pourquoi pas, hein?
Eh bien, tu sais ce qui va se passer cette année? On va remettre la lanterne rouge. Elle sera sur le dossard pour la dernière étape. Celui qui est dernier au classement verra sur son dossard une petite lanterne rouge indiquée.
Il aura un petit bonus éventuellement le dernier coureur du Tour, mais on y reviendra tout à l'heure. C'est ma musette du jour, je vous en parlerai après.
Oh, beau teasing, magnifique teasing.
Ça a bossé, hein.
Mais c'est vrai qu'on a accroché une vraie lanterne rouge.
Ah oui,
oui, exact. Ouais.
C'est pas une lanterne de rouge. Non, une lanterne rouge, Christophe.
Et là, il aura toujours voulu être dernier. Un dossard différent, la lanterne rouge, cette année pour l'étape des Champs-Élysées. Là oui. aussi, un dossard spécial.
Un dossard avec une petite lanterne rouge.
Ouais. Non, alors.
Si, nous a dit l'autre soir.
Ah, ouais.
Ok. Alors, voilà, moi, j'avais un dossard.
Nous l'aurons dîné justement pour.
Mais il y aura une lanterne de dessinée, je crois. Ouais.
Très bien. 14h14, voilà donc pour la lanterne rouge. Actuellement, c'est qui la lanterne rouge de Tour de France?
Bien, ça a changé en fait.
Caleb Ewan.
Anthony Turgis avait été pendant toute une période.
Qui a détrôné rouge. Effectivement Turgis.
Il est à 4 heures, 6 minutes et 54 secondes de Vingegaard tout de même. Hein. C'est pas rien.
Hein. Oui, mais bon,
c'est une étape de plus. Il a tout fait pour, puisqu'il s'est cassé la gueule une fois tous les deux jours.
Il a tout fait pour. Je pense qu'il aurait préféré ne pas être lanterne rouge et ne pas se casser la gueule tous les jours. 114 km de l'arrivée, donc tout à l'heure à Foix. Pour l'instant, nous sommes dans la plaine, mais ça va grimper bientôt. On va faire un point de la situation avec le premier top course de cette 16e étape. Et le top course, c'est l'affaire de Pierre-Yves, évidemment.
114 km à parcourir, des échappés qui possèdent 6 minutes 5 d'avance sur le peloton emmené par les Jumbo Visma du maillot jaune Jonas Vingegaard. Alors attention, si vous voulez les noter, prenez tout de suite un papier, un crayon, parce qu'ils sont nombreux devant. Ils sont 29 exactement. Brandon McNulty, Nathan Van Hooydonk, Dani Martinez, Alexandre Vlasov, Félix Grosschartner, Mikel Honoré, Gorka Izagirre, Matteo Jorgensen, Simon Geschke, le porteur du maillot à pois, Damiano Caruso, Dylan Teuns, trois équipiers de David Gaudu, Olivier Legac, Valentin Madouas et Michael Storer, Nils Ekhoff pour la DSM, Simone Velasco pour Astana, Nelson Poles et Stéphane Bisseger pour Education First, Maxime Bouet, Lucas Ovsian, Philippe Gilbert, Tony Galopin, Mathieu Burgodo, Hugo Hull, Michael Woods et enfin deux coureurs de l'équipe BNB, Cyril Barthes et Alexis Goujard. Alexis Goujard qui a été pendant tout un moment seul en tête, ce qui lui a permis tout à l'heure de prendre deux points au col de l'Espinasse. Nelson Poles lui avait pris un point à la côte de Saint-Hilaire. Mais aujourd'hui, on attend surtout le port de Lers et le mur de Péguerre classé en première catégorie.
RMC
Intégral Tour.
29 coureurs à l'avant, forcément ça ne va pas arriver à 29 tout à l'heure. En revanche, leur avance commence à être conséquente. Jérôme, on est à plus de 6 minutes désormais, donc pour les hommes de tête. Le plus dangereux classement général dans ce groupe,
c'est Vlasov.
Vlasov
qui est 11e du classement général à 10 minutes 30. Donc pour l'instant, il refait une partie de son retard. Alors l'écart semble stabilisé à 6 minutes. On l'a dit, plus le groupe d'échappés est gros, plus c'est entre guillemets facile de contrôler pour le peloton, parce que dans l'échappée, on s'entend pas forcément très bien. Mais on rappelle que l'équipe Jumbo-Visma a perdu Kreuzweig dimanche sur chute. Donc ils sont plus que 6 coureurs au départ, sachant que Wout van Aert est à l'avant. Donc ils sont plus que 5 derrière, 2 principalement à rouler. Christophe Lapa, ils sont 2 même à l'avant, Van Aert et Van Hooydonk. Donc ils sont plus que 2 à rouler derrière. Ils gardent Sepp Kuss avec Vingegaard pour les deux montées du jour. Donc on a Laporte avec c'est qui roule avec lui, Tish Benoot qui roule à l'arrière. Donc pour l'instant, ils maintiennent l'écart à 6 minutes. On verra ce que ça va donner, parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes de favoris qui ont mis des coureurs à l'avant. On a vu McNulty pour Pogacar ou 3 coéquipiers de David Gaudu. Est-ce qu'ils n'ont pas une idée derrière la tête pour passer à l'attaque aujourd'hui et se servir de leurs hommes à l'avant comme point de relais?
Et à l'instant où on parle, Alexandre Vlasov passe devant David Gaudu au classement général.
Ah oui, c'est pour ça qu'au sein de la formation Groupama FDJ, on va quand même surveiller cette échappée, parce qu'on rappelle que l'objectif de Gaudu, c'est quand même de terminer sur le podium. On ne va pas remettre dans le jeu, Cyril, un garçon comme Vlasov qui était considéré comme l'un des gros outsiders au départ de ce Tour de France, qui a été jusqu'à présent plutôt décevant, mais enfin s'il rattrape aussi.
Il a chuté.
Évidemment, il y a un paquet qui ont chuté. Mais Vlasov, c'est un client tout de même. Hein.
Oui, c'est un client. Le remettre dans le jeu, oui, s'il reprend, si cet échappé va ou une partie, parce qu'ils vont plus, ils n'iront pas tous à l'arrivée dans ce groupe de tête. D'ailleurs, est-ce que le groupe de tête sera rejoint ou pas avant le sommet du mur de Péguerre? Ça, on n'en sait rien. Mais de toute façon, non, il ne représente pas un gros danger.
Pas pour le maillot.
Pour le top 5, oui, effectivement, mais à partir du moment où il va représenter un vrai danger, on va dire après l'ascension du premier col, après le port de Lers, les équipes auront suffisamment des coureurs concernés auront suffisamment de d'équipiers pour commencer à faire du tempo et réduire les cas.
Vlasov qui est aidé par Grosschartner. Grosschartner qui, dans cette échappée, a chuté tout à l'heure. Il s'est relevé. Il n'a pas trop de mal, apparemment, mais ça a été assez surprenant. On a appris ça par Radio Tour. On n'a pas eu d'image de cette chute.
Et dans un instant, dans moins d'un kilomètre désormais, le sprint intermédiaire. Est-ce qu'il y a des garçons qui vont aller chercher des points? De toute façon, ce classement du maillot vert, il est joué quasiment depuis la deuxième ou troisième étape, Jérôme.
Oui, bah quand vous avez un Wout van Aert qui fait sur les trois premières étapes podium, qui va chercher les sprints intermédiaires, etc. Voilà, c'est joué. Il va encore aller chercher les points sur ce sprint intermédiaire. Wout van Aert, je pense que personne va lui disputer ce sprint, mais on a vu qu'il est quand même, il a quand même chuté avec Kreuzweig, justement, l'étape de dimanche. On est à l'abri de rien. Pour l'instant, le maillot est solidement accroché sur ses épaules, à condition qu'il passe la ligne d'arrivée à Paris.
C'est Nelson Poles qui est dans cette échappée, qui pourrait aller lui chercher des points, mais il est 12e, il en a une soixantaine, je pense pas qu'il...
Il a 314 points de retard sur Van Aert.
C'est ça.
Donc il faudrait quand même que le Tour de France se déroule et continue au mois d'août et au mois de septembre, éventuellement pour qu'il rattrape et qu'il espère.
Ou un abandon.
Oui, un abandon. Mais en deuxième au classement par points, c'est Tadej Pogacar. 182 points, mais on l'imagine mal en vert, ça lui va pas autant. Hein, le blanc, le jaune, ça lui va bien.
Ça lui va pas autant, mais c'est le seul maillot qu'il a pas ramené, qu'il a jamais ramené à Paris. Pourquoi pas un jour?
Tiens, ben regardez donc, on va se bagarrer un peu juste pour le jeu avec un coureur de l'équipe DSM qui vient passer devant Wout van Aert. Il lui a pris quelques points. Tiens, il a dû être surpris un peu, Wout van Aert, que Nils Ekhoff vienne le passer, alors que pour l'instant, personne n'avait osé faire ça. Petite explication de texte,
crime, ou alors
c'est juste pour la rigolade. Ouais. On va voir. Les deux garçons discutent et s'amusent là. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Hein. C'était plus pour le jeu.
Je ne sais pas si au classement par points, quel est celui qui a décroché le plus de points dans l'histoire de ce classement. Il faudrait pas faire des recherches. Hein, messieurs, vous l'avez.
Je ne sais pas, mais Nils Ekhoff vient de voler 1500 euros à Wout van Aert.
1500 euros. Alors Wout van Aert qui a gagné à lui seul plus que...
Que n'importe quelle équipe.
C'est quand même dingue.
Il a plus de prix. Je crois qu'il est à plus de 60 000, alors que la première... 62 000 et la première équipe, c'est Ineos avec 50 000. Donc Van Aert, plus fort que le reste du monde.
On rappelle que l'équipe Astana est toujours bien classée en termes de gains, puisqu'ils ont ramené quand même 2340 euros depuis le début du tournoi.
On déduira les amendes, hein, en plus,
oui,
là-dedans.
Oui,
attention, ils ont dû juste repasser en
mais
positif.
Mais les amendes, c'est en francs suisses, ça, c'est en euros. Ouais. Donc il va falloir faire
en plus la conversion. Ouh là là, ils vont perdre gros Astana.
Ok, on va aller faire un petit tour sur la moto, retrouver Arnaud et Marco qui sont donc à l'avant. Vous le disiez, messieurs, il fait encore chaud aujourd'hui parce que ici à Foix, on est tranquille. Hein. Il fait bon, on est sous les arbres, sous les platanes. Magnifique lieu d'arrivée pour cette 16e étape. Ouais, tu vas pas te refroidir tout à l'heure.
Il me tarde d'arriver. Oui, je te disais, il fait chaud effectivement, rien à voir quand même avec ce que c'était l'autre jour. Très sympathique de suivre ce petit peloton quand même de 29 coureurs déambulés. C'est la plus grosse échappée depuis le début de ce Tour de France 2022. Et puis puisque vous parliez tout à l'heure, je me permets de revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, AG2R, Citroën et ces trois coureurs. Sachez que donc c'est évidemment pas inédit dans l'histoire du Tour d'avoir une équipe qui termine à 3. Je crois que le record, évidemment hors équipe qui se sont fait virer ou qui ont totalement abandonné, c'est deux coureurs à la fin du Tour de France 1997 pour l'équipe mutuelle de Seine-et-Marne. Voilà, donc ça serait les galeries à G2R si on perdait encore un coureur aujourd'hui ce triste record, ou en tout cas ce record du nombre de coureurs le moins important dans une équipe à l'arrivée du Tour.
Très bien, on écoutera d'ailleurs à ce propos Vincent Lavenu et Benoît Costefroy, que vous avez rencontré avec Julien, avec Kevin ce matin au village départ. Concours de de chance pour cette formation AG2R Citroën qui, heureusement pour elle, a déjà mis au fond, c'est-à-dire a déjà remporté une étape tout de même avec Bob Jungels qui est toujours en course. Hein.
On rappelle qu'il est arrivé aussi que des équipes ne soient pas du tout à l'arrivée. Hein. C'est arrivé, on pense par exemple à l'équipe PDM qui était sortie tout
au
long du tour.
Oui, mais je ne sais pas ce qu'il leur était arrivé, cela.
Un souci dans le frigo.
Oui, dans le frigo, c'est celui-là de frigo. Allez, 14h23, on revient dans un instant pour la suite de cette 16e étape du Tour de France. Toujours en direction de Foix, on est à 108 km de l'arrivée. 108 km, c'est pas beaucoup, oui. Mais il y a quand même quelques petites côtelettes à s'infuser. Le Port de l'Air se classe en première catégorie avec 11 400 km d'ascension à 7%. Et puis surtout,
le mur de Péguerre, où Jérôme Coppel a brillé il y a quelques années en explosant ses pneus.
Ah ben oui, il avait roulé sur les... Alors les clous de...
De pâtissier.
Ah, oui, parce qu'on l'avait fait ça aussi. Les clous de pâtissier.
Les clous de girofle.
14h23. On revient dans un instant dans l'intégrale Tour de France sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégrale Tour.
Christophe Cessieux.
14h25, vous êtes sur RMC, l'intégrale Tour de France. C'est jusqu'à dimanche, profitez-en. Ensuite, on ferme les portes. Il y aura d'autres programmes sportifs, rassurez-vous. Durant la fin de cet été, durant tout le mois d'août, Cyril Guimard, Jérôme Coppel, Pierre-Yves Leroux, Arnaud Souk, Marco Combes sur la moto, ils sont tous là. Rémi Soula derrière la vitre, magnifique.
Lui, les reporters.
Il se couche tôt, lui. Et puis nos reporters que vous connaissez, Julien Richard, qui viendra tout à l'heure nous faire sa musette. Il en a plein en stock. Kevin Morand, qui sera à la chef. Bref, toute l'équipe est là, sans oublier Bruno Fontaine qui à cette heure-là est en pleine sieste comme tous les jours. 107 km de l'arrivée, un nouveau point de la situation. Le top course avec toi, Pierre-Yves.
107 km de l'arrivée, 6 minutes 39 d'avance pour les hommes de tête qui ont déjà passé deux difficultés. Je me suis fait taper sur les doigts par Jérôme parce que je me suis trompé tout à l'heure. À la côte de Saint-Hilaire, c'est bien Bisseger qui est passé en premier et non Nelson Paulès, son coéquipier. À la côte de l'Espinasse, classé en troisième catégorie, c'est Alexis Goujard qui est passé devant Bisseger également. Tiens, je vais vous citer juste les Français qui sont en tête parce qu'on veut une victoire française, messieurs, aujourd'hui. Aujourd'hui, du côté de l'Ariège, les Français qui sont dans l'échappée, 29 hommes au total et ils sont 7. Olivier Legac, Valentin Madoise de l'équipe Groupama FDJ, Maxime Bouet pour la team Arkea Samsic, Tony Galopin pour la Trek Segafredo, Mathieu Burgodeau pour la Total Energy et puis deux coureurs de l'équipe BNB KTM, Cyril Barthes et Alexis Goujard. Je suis cocardier aujourd'hui, Christophe.
Eh bien, j'espère bien parce qu'on la souhaite, cette victoire d'étape française, peut-être la première tout à l'heure. 14h26, j'ai oublié de citer quand même nos deux jeunes femmes dans l'équipe du Tour de France.
Bah oui,
Julia,
celle qui se lève le plus tôt.
Un énorme moteur, sans doute le plus gros moteur de l'équipe.
Ouais. Elle se couche le plus tard et elle se lève le plus tôt.
Et en plus, elle est en tête dans l'école.
Ouais, c'est incroyable.
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 Et puis notre dame Vava, évidemment, qui elle est un peu plus fatiguée aujourd'hui. Hein.
Bah oui, mais elle a beaucoup de travail.
C'est parce qu'elle a beaucoup de travail.
Bah oui.
Ça doit être ça. Voilà, toute l'équipe a été citée. On va pouvoir revenir sur la course avec donc cette nouvelle série de tests Covid que craignaient évidemment tous les directeurs sportifs, tous les managers et tous les coureurs, qui a eu lieu hier et avant-hier et qui a donc donné lieu à deux mises hors course au sein de la formation AG2R Citroën, puisque donc Michael Chérel et le deuxième, Pierre-Yves, tu m'avais aidé, je l'ai oublié.
Tu cherches le deuxième dans l'équipe AG2R. Tiens, bon, on va faire le coureur mystère, c'est intéressant.
Je vais trouver, attends.
Après Michael Chérel. J'aurais pu.
Évidemment, le savoyard.
T'es parti sur les pinceaux, tu vois, pour te faire découvrir.
Oui, c'est ça, me faire marronner pendant un quart d'heure.
Aurélien Paré-Pinte, oui, malheureusement, ouais, qui a vécu un Tour de France vraiment compliqué. Et on espère pour lui que l'année prochaine, ça sera plus brillant.
Ce qui est dingue quand même, je sais pas Jérôme, mais on a l'impression que le Covid ne s'abat que sur les coureurs des équipes françaises. Depuis le début, on a eu aussi des leaders, Guillaume Martin.
AG2R, ça fait le troisième. On rappelle que Bouchard, pour AG2R, c'est le troisième. Bouchard, c'était le premier à être testé positif au Covid. Cofidis, tu l'as dit, on a Valscheid aujourd'hui, on a Guillaume Martin et Coquard avant le tour. Et AG2R, rappelez-vous que Bob Jungels était positif avant le départ. Il a quand même pu prendre le départ. En plus, il a gagné une étape, mais c'est vrai que ça touche pas mal les équipes françaises. Alors, c'est la malchance, c'est eux que ça touche le plus. Mais on rappellera que Langen, le coéquipier de Pogacar, aussi a été testé positif. Maika, positif, mais suivant la charge virale, a pu rester en course. Bon, ça touche tout le monde, et comme on ne sait pas comment il se propage, bon, bah, c'est un peu au petit bonheur la chance ou la malchance.
Et je peux vous dire que hier, pour avoir rendu visite à l'équipe Groupama FDJ, là, on prend toutes les mesures. Marc Madiou est venu nous saluer. Il est resté avec son masque durant un quart d'heure dehors avec les journalistes qui l'attendaient. Il n'a pas dîné à notre table. Il est rentré dans son équipe. Même si aujourd'hui c'était le dernier test obligatoire ce lundi plus exactement, désormais il n'y aura plus de test obligatoire, même si les équipes testent aussi leurs coureurs. A priori, il ne devrait plus y avoir trop de problèmes.
Non, le danger c'est pour la santé. Voilà, si un coureur a vraiment des symptômes, qu'il n'est pas bien, et puis tu peux effectivement le transmettre aux autres, on va essayer d'être quand même même sérieux et de préserver la santé. Il y a d'autres courses après le Tour de France aussi.
Marc m'expliquait hier soir que sur les datas de deux de ses coureurs, Stephen Kung et Thibaut Pinot, qui ont attrapé le Covid après le Tour de Suisse, et bien justement, les datas entre le Tour de Suisse et le Tour de France, il y a 10% en moins de puissance. Cyril, est-ce que ça te semble expliquer finalement le manque de puissance de Thibaut dans certaines étapes où il aurait pu aller chercher la gagne, où il aurait sans doute cherché la gagne les années précédentes?
Oui, les datas, ça n'est que des datas. Hein.
C'est pas son dada, les datas.
Non, 10%, pourquoi les deux exactement 10% déjà?
À peu près,
Moi, je reste persuadé aussi qu'on perd on va perdre sur l'ensemble du Tour de France une partie de sa puissance au fil des étapes. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les datas de tout le monde et puis de les analyser de façon très précise.
Et tu penses pas que le Covid et l'après-Covid justement
à partir du moment où vous avez une maladie, quelle qu'elle soit, vous allez avoir une diminution de votre niveau de performance.
Une fois que tu es guéri.
Si vous faites une bonne bronchite, ça ne revient pas tout de suite non plus, quoi. Mm-hmm. Non, mais on essaye de tout expliquer alors qu'on n'a pas tous les éléments. Alors effectivement, si vous avez une perte de puissance, Kung, il va bien quand même. Hein.
Oui, mais enfin, Kung, l'autre jour, il était en chasse avec Ghana. Ce sont quand même deux des meilleurs rouleurs au monde, ils n'ont jamais réussi à rentrer, Jérôme.
Oui, est-ce que ça vient du Covid ou pas, ou est-ce qu'il était un peu sec en fin d'étape? Bon, c'est la même chose pour Thibaut. Si vraiment ils arrivent à quantifier la perte de puissance due au Covid ou due à la fatigue, etc., si c'est réellement 10%, bon, bah, Thibaut, il aurait déjà pu gagner une étape, finalement. Est-ce que c'est ça? Difficile à quantifier, je pense. Eux le savent mieux que nous. Hein. Ils ont les datas, ils sont à l'intérieur. C'est dommage. On espère qu'ils vont les retrouver d'ici Paris pour aller gagner une étape.
Très bien. En revanche, on le disait, chez G2R Citroën, ça va être compliqué puisqu'ils ne sont plus que trois. Parmi les trois rescapés de l'équipe, Benoît Cosnefroy, qu'on écoute tout de suite.
C'est un concours de malchance et c'est malheureusement comme ça. Cette année, c'est tombé sur nous. Il y a deux années où il y a des collectifs qui étaient décimés. Je pense notamment à la FDJ certaines années. Et c'est malheureux, je veux dire, c'est jamais plaisant. Surtout là, les deux copains qui sont rentrés à la maison ce matin, physiquement, ils se sentent bien. Voilà. Ils peuvent continuer le tour. C'est juste les circonstances actuelles avec la pandémie qui fait qu'ils ne peuvent pas. Et c'est comme ça, il y a des règles.
Il y a des règles et les règles sont impitoyables donc pour la formation AG2R Citroën et son manager qu'on écoute tout de suite, Vincent Lavenue, qui se retrouve donc avec seulement trois coureurs dans cette 16e étape du Tour de France.
C'est jamais une bonne nouvelle quand vous avez deux coureurs qui sont écartés du Tour, déjà sur une équipe qui était restreinte due à tous nos pépins depuis le départ du Tour. Et là, d'un seul coup, deux coureurs qui semblaient plutôt même en bonne forme. Malheureusement, donc ils ont subi un test positif avec des CT assez bas, donc qui veut dire que ces garçons sont contaminants. Ça pouvait représenter un risque de contamination, notamment pour le peloton. La décision a été prise en accord avec le service médical du Tour, le Tour de France, le service médical de l'équipe, la direction générale. La raison l'a emporté. On aurait pu très bien dire non, nos coureurs sont physiquement bien, on y court. On a décidé de ne pas le faire. Voilà, donc c'est très très frustrant d'abord pour les coureurs eux-mêmes, pour l'équipe qui a beaucoup investi depuis de nombreux mois sur ce Tour. Voilà, maintenant on se retrouve à trois coureurs. Ça fait pas beaucoup. C'est la première fois que ça nous arrive en 30 ans. Je sais qu'avec des garçons comme Stan De Wulf, Benoît Cosnefroy et Bob Jungels, on aura encore peut-être de belles choses à faire.
On l'espère évidemment pour eux, même si c'est compliqué, Cyril, à trois, à moins d'en mettre un ou deux dans les échappées, autrement c'est impossible.
Oui, on peut toujours aller dans un coup. Personne va courir plus contre l'équipe AG2R Citroën qu'une autre équipe. Là, aujourd'hui, ils auraient très bien pu avoir un ou deux coureurs qui prennent le premier wagon qui est parti, sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Bon, il faut pas partir du principe que vous n'êtes que trois et qu'à partir de ce moment-là, vous êtes en état d'infériorité sur le plan numérique. Mais si vous partez dans le bon coup, une fois que vous êtes devant, mm-hmm. C'est plus le problème d'état 3. Bah, écoutez, puis je vais vous dire une chose. Là, ils sont 140 ou 150. Vous êtes 3, vous avez qu'à les encercler. Puis ça passera bien.
voyons.
Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui n'ont pas placé de garçons dans l'échappée. Il y a donc AG2R. Aujourd'hui, il y a Alpecin, Intermarché. Et puis, il y en a une autre, c'est Israël. Bike Exchange, voilà. Donc, voilà, peu d'équipes. Une petite image quand même. J'ai pas voulu vous le dire tout à l'heure, oui. une petite image qui peut devenir une grosse image. J'ai pas voulu vous le dire tout à l'heure, mais en tout début d'étape, il y a un garçon qui est allé à la voiture médicale qui s'appelle Marc Soler, qui est donc un équipier de Tadej Pogacar, et on vient de le voir à nouveau très à l'arrière du peloton. Donc tu disais, Cyril, ils sont 150 à peu près, ben il y en aura peut-être un de moins si ça continue, parce que c'est compliqué actuellement pour l'Espagnol de l'équipe UAE.
Et là, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour Tadej Pogacar, qui expliquait après l'étape d'avant-hier que désormais les deux équipes rivales pour le maillot jaune, à savoir UAE et Jumbo, étaient à égalité. Soler, qui est l'un des lieutenants de Pogacar pour la montagne, qui semblait retrouver des jambes depuis quelques jours et qui là, effectivement, semble pas au mieux.
Bah oui, il est carrément distancé du peloton. Alors le peloton roule quand même à une bonne allure, mais un coureur de son niveau doit pas être lâché ici. Il était échappé dans l'étape de dimanche. Il semblait retrouver un peu des jambes. Mais c'est sûr que pour l'équipe de Pogacar, c'est une mauvaise nouvelle. En termes de pur grimpeur, il va rester Maika, qui est aux côtés de Pogacar dans le peloton, et McNulty, qui est dans l'échappée. Bon, bah, ça va rééquilibrer une nouvelle fois les forces entre UAE et Jumbo Visma.
Le peloton qui est en file indienne, hein, ça semble avoir un petit peu accéléré. Ouais. Ce peloton qui est pointé avec un retard de 6 minutes 48 désormais.
Oui, Marc Soler, lui, est à une petite minute derrière le peloton. Marco Haller est également en difficulté aujourd'hui. Voilà, c'est pas très simple. On est passé sous la barre des 99 km, 6 minutes 50 d'avance pour les 29 hommes de tête.
Allez, 14h35, on se retrouve dans un instant, toujours sur la route du Tour, à moins désormais de 100 km de l'arrivée. Tout à l'heure, à Foix, 6 minutes 50 d'avance pour les 29 hommes de tête. Le vainqueur de l'étape se trouve probablement, et plus que probablement d'ailleurs, dans ce groupe, à moins évidemment que la bagarre se déclenche dans la première difficulté du jour. Ça arrive dans combien de temps, le
port de la première difficulté du jour? Bien, ça sera à peu près
50.
Ah oui, 50. Alors,
de borne.
On est dans une heure. On y est dans une heure.
Très bien. Eh bien, nous, on est là avant l'heure, puisqu'on est ensemble jusqu'à 18h. À tout de suite.
Christophe Cessieux.
14h38 sur RMC, la route du Tour en direction de Foix. On va prendre des nouvelles de Marc Soler, justement, qui se trouve à la voiture médicale. Le coéquipier de Tadej Pogacar, qui semble pas au mieux, qui est en train de s'entretenir avec la médecin-chef du Tour de France.
Pierre. Florence Pommery, médecin-chef du Tour de France, en grande discussion avec Marc Soler, qui a vraiment la tête des mauvais jours, qui ne montre pas particulièrement une plaie ou quoi que ce soit. C'est peut-être à l'intérieur que ça va mal, Jérôme. Il y a des jours, quand on se lève, après une journée de repos aussi, c'est un peu particulier, hein. On sait qu'il y a des garçons qui souffrent de repartir à l'assaut comme ça, des montagnes notamment aujourd'hui.
Oui, des fois les journées de repos sont dures à digérer pour certains coureurs, mais là on a vraiment l'impression qu'il a quelque chose, enfin qu'il est malade.
Il n'a plus rien
clairement. Pas d'énergie. C'est quand même rare pour un coureur comme lui qui grimpe plutôt bien d'être distancé sur cette partie-là de l'étape. Voilà, si on est malade, alors déjà le Tour de France sans chute, sans maladie, c'est très difficile. Si vous avez le moins de petits pépins sur une étape comme ça qui roule quand même assez vite, ça paraît compliqué. Quand vous êtes à 96 km de l'arrivée, qu'il vous reste les deux principales difficultés à aller monter, ça paraît quand même compromis pour Soler. Et là, c'est plus la tête qui vous tient qu'autre chose. Et si le fil de la tête se débranche, et ben ça sera fini pour Marc Soler.
Alors, on va peut-être en savoir un petit peu plus, puisque Florence Pommery est actuellement en train d'essayer de faire quelques soins quand même à Marc Soler. Elle a une bombe. Alors, est-ce que c'est une bombe de froid, Cyril?
Ça s'est pas fait piquer par une bête?
Ah, une piqûre, possible.
Ou un coup de chaud, un brumisateur. On ne sait pas, il y a beaucoup d'explications possibles, mais voilà, peut-être qu'on en saura plus dans quelques temps. Mais ouais, il n'a pas l'air vraiment d'avoir un super coup de pédale et pas du tout une bonne tête, Marc Soler.
Bon, ça s'annonce un peu le calvaire pour Marc Soler aujourd'hui. Donc, dossard numéro 7, coéquipier de Tadej Pogacar. Il retourne à la voiture. Et qu'est-ce qu'elle lui fait? Il met du froid dans le dos.
Du froid, peut-être. Peut-être un coup de chaud, oui, pour Marc Soler, qui est à une minute derrière le peloton. Tu as des informations, Arnaud, éventuellement, sur Marc Soler ce matin?
J'ai pas d'informations là sur ce qui a pu se passer en course, mais justement, on a pu l'apercevoir ce matin. Il allait très bien, Marc Soler, rien de spécial. Donc, il se peut qu'il se soit passé quelque chose depuis le départ tout à l'heure à midi et demi, mais il semblait aller très très bien ce matin. Il a répondu même à quelques questions, sans évoquer, en tout cas, de difficultés particulières.
Ok, ouais, Jérôme?
C'est peut-être le jeu aussi, Jérôme, de pas trop montrer quand on a des faiblesses, hein, quand on est dans une équipe de coureurs qui joue le maillot jaune.
Oui, au départ, tu dis pour les interviews, donner le change, oui, éventuellement. Mais bon, si c'est un truc pour rafraîchir, peut-être qu'il a pris un coup de chaud. Arnaud l'a dit, il fait quand même très chaud encore sur la route du Tour aujourd'hui. À voir. On va voir s'il arrive. Pour l'instant, il est dans les voitures. Il est à la voiture médicale. S'il arrive à recoller et qu'on le revoit à l'avant du peloton, ça voudra dire que c'était juste une petite alerte, un petit coup de chaud. Mais s'il reste comme ça assez loin, ça paraît compliqué pour aller jusqu'à l'arrivée.
Et pendant ce temps-là, l'échappée continue de prendre de l'avance. 7 minutes 14 au dernier pointage entre le groupe Van Aert, on va l'appeler comme ça, le groupe Maillot Vert, donc composé de 29 hommes, et la tête du peloton Maillot Jaune. 14h41, c'est l'heure de notre carte postale.
RMC, la carte postale de l'Intégral Tour.
Avec évidemment Arnaud qui va nous parler de je ne sais quoi aujourd'hui. Arnaud, quel est ton thème de carte postale?
Du mur de Péguerre, tiens, qui pourrait être l'un des juges de paix aujourd'hui sur le Tour de France. Le nouveau totem de l'Ariège et son histoire un petit peu contrariée avec la grande boucle inscrite au parcours en 73, le Tour de Luis Ocaña, mais finalement jamais emprunté cette année-là. Puis de nouveau coché par les organisateurs 39 ans plus tard, en 2012. Une journée noire pour la direction de course, de celle qui marque les esprits 10 ans plus tard, qui ne se souvient pas du fameux épisode des clous de tapissier disséminés dans cette montée déjà bien piquante avec ses pentes à 16 voire 18% dans le final, une fois passé le col des Kaunyu, des pentes qui viennent s'ajouter à une route très étroite au revêtement parfois typique des cols pyrénéens, c'est-à-dire un revêtement pas très bon. 15 juillet 2012, Sandy Cazard franchit à peu près tranquillement cette ascension en tête, et un quart d'heure derrière, le peloton musarde, roulotte gentiment, mais va surtout se retrouver bientôt sur la jante, une crevaison, puis deux, puis trois, puis une trentaine au final. Le premier à percer s'appelle Cadel Evans, l'Australien vainqueur du Tour l'année précédente. Le dépannage tarde, un équipier arrive finalement à sa hauteur, il a lui-même la roue arrière crevée, moment de panique, d'hésitation sur le Tour, rapidement informé, le peloton ralentit alors son allure sur ordre de l'équipe Sky, qui gagnera d'ailleurs bientôt cette grande boucle avec Bradley Wiggins. Cadel Evans, lui, crèvera trois fois, mais finira malgré tout l'étape dans le peloton. Réaction malgré tout indignée de son manager chez BMC à l'arrivée ce jour-là, John Lelong. Quand on pense que les coureurs descendent à 80 km/h, jeter des clous sur la route est une attitude criminel, oui, mais 10 ans plus tard, l'énigme des clous donc reste entière. En 2017, la direction de course, pour éviter toute perturbation du type, avait interdit lors d'un nouveau passage au mur de Péguerre l'accès au public, dispositif renouvelé en 2019, puis cette année, en 2022, sur les 4 derniers kilomètres de l'ascension, histoire de rendre la montagne aux champions, selon l'expression consacrée de la direction de course, et aussi d'éviter, comme ce fut le cas en 2012, que le public et les véhicules en course n'empêchent les coureurs de faire la course en les bloquant sur cette route très très étroite du haut du mur de Péguerre.
Le mur de Péguerre qui sera donc la dernière difficulté du jour tout à l'heure et qui est donc interdit au public. On posera les questions tout à l'heure à notre ami Dédé qui nous parlera de la sécurité qui a été mise en place dans ce mur de Péguerre.
Pierre-Yves. Le pouvoir des coureurs quand même. Luis Ocaña dit aux organisateurs non, on passe pas par là, la descente est trop difficile.
Rappelez-vous aussi, il y avait eu quelques protestations au moment où les organisateurs du Tour avaient fait descendre le peloton dans le mur de Sarenne après les
étapes de Sarenne, de
l'Alpe d'Huez. L'année où l'Alpe d'Huez se faisait à deux reprises. Et tu étais dans le peloton.
Oui, j'étais dans le peloton.
C'était une sacrée descente là.
Ouais,
aussi,
c'est vrai que c'est une descente vraiment très très dangereuse. Alors quand vous lancez des coureurs comme ça dans une descente, surtout quand il y a une étape de prestige à aller gagner comme ça, bien sûr qu'on prend tous les risques. Et il y a quand même le vide dans cette descente. C'est une toute petite route. Le goudron est pas terrible, en tout cas était pas terrible à l'époque. Toute petite route. Si vous ratez le virage, vous êtes trois épingles plus bas. Donc je crois que Christian Prudhomme avait eu un peu peur aussi cette année-là dans cette descente. Pour l'instant, le Tour l'a jamais réemprunté. On verra. Alors après la descente du mur de Péguerre, je sais pas de quel côté il parlait à l'époque Luis Ocaña, mais là pour aller vers Foix, elle est vraiment pas dangereuse. C'est une très grande route, très large. Alors elle va très vite, par contre, mais elle est pas du tout dangereuse cette descente. La montée, oui, très étroite, et c'est pour ça que le public est interdit parce que ça paraît compliqué. Nous à l'époque, c'est l'année des fameux clous. C'est vrai, quand les voitures, le public, c'était compliqué de produire un effort dans ce mur de Péguerre.
Petite question. Arnaud, il y a quelques instants, vous êtes passé à Lavelanet. Est-ce que tu as aperçu Fabien Barthez pour lui faire une bise éventuellement sur le front pour que ça porte bonheur aux Français?
Il était... Il était avec Benoît Babi et Perrine Lafont, qui sont également originaires de cette ville ariégeoise. Non, je blague, je les ai pas vus, mais en tout cas, oui, on a eu une petite pensée pour Fabien Barthez. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, Fabien Barthez, qui était le gardien de l'équipe de France, championne du monde de football lors de la Coupe du Monde en 1998, et qui est donc un ariégeois pur jus avec cet accent presque, non pas de Rocaille, mais en tout cas un accent, voilà, bien du sud, bien d'ici.
Ouais, et Laurent Blanc avait pris l'habitude d'embrasser son front à l'époque, avant les matchs, ce qui a peut-être permis à la France de gagner la Coupe du Monde, on ne sait pas.
Gardien aussi, ne l'oublions pas, de l'Olympique de Marseille.
Final, il n'a pas pu le faire.
Oui, c'est vrai, il n'a pas pu le faire en finale, puisque Laurent Blanc était expulsé.
Ok, 14h45, est-ce que ça vous dit de parier, messieurs? Vous vous sentez prêts ou non?
Ben nous, on est bon, nos chevaux sont devant, c'est bon, c'est parti.
Bon.
Les paris RMC.
Pré-parier, avec Johan Bredov qui nous rejoint. Salut Johan.
Salut messieurs, salut à tous.
Alors mon petit bonhomme, on va rappeler le classement du maillot jaune, parce que là on a eu quand même des vainqueurs d'étape à plusieurs reprises, notamment Jérôme Coppel qui est dans une bonne phase en ce moment, hein, après un début de tour un peu poussif, là ça va mieux.
Ouais, il est pas mal, il avait trouvé Philipsen, il avait dit Pinot lors de l'étape 14 qui a fini 3ème, ouais c'est pas mal pour Jérôme, mais je regarde le classement, je suis toujours en tête, il est toujours deuxième, Jérôme. Moi j'ai moins 32,50€, messieurs, c'est pas fameux, hein. Va falloir qu'on se réveille, hein, pour cette dernière semaine quand même. Jérôme c'est moins 70, Arnaud moins 75, Cyril moins 85, nuls. Christophe moins 94 et Pierre-Yves Leroux qu'on n'a pas mis une dedans. Voilà, moins 150, bim.
C'est un chiffre rond, c'est bien.
C'est catastrophique.
Je vais encore chercher une grosse cote aujourd'hui.
Si vous nous écoutez, surtout ne misez pas sur les coureurs que l'on vous indique. Hein.
On le rappelle, ne misez pas sur les coureurs.
Alors, aujourd'hui, le jeu de massacre continue. Quels sont les principaux favoris, mon cher Johan?
Alors, le principal favori s'appelle Alexander Vlasov. 3,50 la victoire du Russe. Ensuite, on a Daniel Felipe Martinez à 6, Damiano Caruso à 7. Pogacar toujours là, lui côté à 8, ensuite Nelson Paoles, Michael Storer côté à 12, et tiens, le premier français, même cote que Wout van Aert, il est côté à 15, c'est Valentin Madouas.
Valentin 15e au classement général à 27 minutes 10.
Alors, sur qui aviez-vous parié, Jérôme?
J'avais parié sur Dylan Teuns qui est à l'avant. On n'a pas eu la cote, mais ça doit être une belle cote.
Ouais, il est à 20. Dylan Teuns, ouais, c'est pas mal, ouais.
Pas mal, je vais le garder.
Donc, tu gardes Dylan Teuns. Mm-hmm. Évidemment, il est dans l'échappée. Cyril, tu avais misé sur qui?
Thibaut Pinot.
Ah bon,
bien joué. Mais comme il a 30% de watts en moins, donc
non, 10 sur ta vie et 10% de puissance en moins. Oh.
Bah, 10%, ça fait 50 watts. Hein. On refera les calculs après. Non, moi je vais faire.
En watts, moi je parle.
Ouais, non, moi je vais aller vers Storer.
Ok, coureur donc de la formation Groupama FDJ. Donc tu changes ton pari, hein?
Bah, oui, mais il a le droit puisque c'est après une journée de repos, il n'y a pas de baisse du pourcentage.
Oh là 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 là, c'est
ça,
quoi
a été bien dit, ça. Non, ça, non, ça a été non, bien
non,
précisé.
Non, non.
Si, parce qu'on ne connaissait pas les coureurs qui seraient au départ à cause des tests Covid.
Alors, ça, en ça revanche, a été précisé. Ceux qui avaient donné
pas du tout.
Si,
on va pas changer d'une journée de repos.
On est d'accord avec toi.
Ceux qui avaient donné un vainqueur, parce que nous sommes mouillés et nous avons.
T'es mouillé parce que t'es allé à la plage. C'est la seule raison pour laquelle tu t'es mouillé.
C'était
avant la
plage. Et nous, on pue le vélo, donc on a mis les bons devant.
Si on a le bon, on gagne 50% de plus, voilà. Johan. Oui.
Hein, allez, je vous autorise parce que vous n'allez pas gagner. Voilà.
Alors moi, j'avais donné Daniel Martinez.
Tout à fait, oui, Daniel Martinez.
Il était coté à combien quand je l'ai donné?
Alors ce matin, il était à 14 et là, il est à 6.
Il est moins bien que Dylan Teuns. Mais bon, c'est pas mal quand même.
J'ai essayé de te défendre, Cyril, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais. Bon, mauvais joueur. Moi, j'avais donné Michael Woods, il est devant et je maintiens
menteur.
Michael Woods.
Quel
escroc! Tu avais donné qui?
Thibaut Pinot.
Ah ben oui, toi aussi, Thibaut Pinot. Voilà.
Oui, ben je change mon pari, puisque de toute façon, je perdrai pas. Et je vais dire Michael Woods. Il est à combien, Michael Woods?
Eh ben tiens, je te le cherche. Il est à 18, Michael
c'est
Woods.
C'est super, ça.
Ah, allez. C'est pas mal. Ça.
Je mets 10 euros.
Tu mets 10 euros, mais ouais. Tu les sors de ta poche, mets-les sur la table s'il te plaît.
Je suis à moins 150, donc il faut à tout prix que je repasse dans le positif.
Arnaud sur la moto. Alors, Arnaud, évidemment, il n'avait pas donné de pronostic, il attend toujours le jour de l'étape.
Alors, maintenant. Eh ben maintenant, c'est Denis Charvet qui me demande mon pronostic le matin, depuis que je l'ai fait gagner beaucoup d'argent avec Michael Matthews l'autre jour. Alors je lui ai dit à Denis Charvet, très honnêtement, ce matin, je lui ai dit vas-y, parie sur Dani Martinez. Écoute, il est devant. Donc,
ouais, tu as pris la roue de Christophe.
Si je lui fais gagner des sous, il a intérêt à payer à boire.
Il
avait parié
sur Martinez, mais voilà. Mais
c'était avant-hier. Toi, voilà, tu étais qu'à 6, hein, alors que moi, je suis à 14 pour une victoire de Martinez, c'est ça?
Ouais, exactement. Ouais.
Plus 7, éventuellement, si ça gagne. Très bien. Bah voilà. Non, Johan, tu nous as pas donné ton pronom, toi.
J'avais dit Bob Jungels, qui est pas parti. Ils sont plus beaucoup chez AG2R, d'ailleurs. Moi, je vais dire Damien Hopkins.
Il est pas parti.
Si, il est parti.
Il est parti, mais pas dans l'échappée.
Il y a encore des coureurs d'AG2R qui partent, quand même.
Oui, c'est vrai. Peut-être plus pour longtemps. Bon, bref. Damiano Caruso, tiens, côté A7, comme ça je me dis, on va maximiser nos chances d'en mettre une dedans quand même, messieurs, parce que sinon on va passer encore pour des. Bon, bref. Ouais. Voilà.
Pour des tocards, tu veux dire?
Ouais, un peu, oui. Allez, Damiano Caruso, côté A7, ça sera mon pari.
Mais c'est super difficile quand même de parier sur des coureurs cyclistes. C'est beaucoup plus difficile que de parier sur un pauvre match de foot où t'as trois possibilités de voilà quoi. C'est ou une victoire, ou une défaite, ou un match nul. Et encore plus pour le basket, c'est ou victoire ou défaite. Donc évidemment, là nous sommes dans la difficulté, Cyril. Non, c'est beaucoup plus compliqué.
Ah oui, surtout Cyril. Oui.
Quelle horreur ces paris.
Ouais.
Bah oui, mais Thorin, au fait, il a combien?
Jamais gagné en 20 ans, c'est quand même terrible.
Thorin, il est à 12, mon cher Cyril.
À 12?
Ouais.
Il n'y a personne qui le connaît, à part moi.
Ah, rigole ou quoi? C'est Nora qui est en tête du groupe d'échappés, d'ailleurs. Merci, Johan.
Merci à vous.
À ce soir.
RMC Intégral Tour.
Et il reste 86 km encore à parcourir. Avant stabiliser désormais pour les 29 hommes de tête, Pierre-Yves, 7 minutes 40.
Sur les routes de l'Ariège, 7 minutes 40 d'avance pour les 29 hommes de tête. Et ce qui veut dire qu'Alexandre Vlassov, eh bien, grappille des petites places virtuellement au classement général, puisque lui, il est devant, il est 11e à 10 minutes 32. À 10 minutes 20 de ce groupe de tête, on trouve Marc Soler, effectivement, toujours compliqué pour le coéquipier de Tadej Pogacar, 29 hommes. On cite les Français à nouveau. Allez, Olivier Legac, Valentin Madouas pour la Groupama FDJ, Maxime Bouet pour Arkea, Tony Galopin pour la Trek Segafredo, Mathieu Burgodeau pour Total Energy, Cyril Barthes et Alexis Goujard pour la BNB. Puis on va citer, allez, peut-être les leaders qui sont présents. Alexandre Vlassov, je le disais. Eh bien, ça doit être le seul leader d'équipe présent à l'avant aujourd'hui.
Et il y a un ancien coureur qui est très attentif à l'avant de la course, El Pistolero, Alberto Contador, qui est sur la moto de
Rosa. Il est avec nous hier soir.
Il a des petits yeux aussi, ouais. Alberto Contador. C'est marrant.
Il était au même endroit.
Oui,
c'est vrai.
Ouais,
mais très
vrai,
sérieux comme nous.
Ouais. D'accord.
Lui, il prend l'air.
Il fait encore le métier.
Il est aux côtés de son compatriote Marc Soler, sans doute pour prendre quelques petites infos.
Ah, il est à l'arrière. J'avais pas. Il est à
l'arrière. Ouais, exactement.
Cyril, on voit toute la formation Ineos dans la roue d'un coéquipier de Vingegaard à l'avant. Qu'est-ce qu'ils font là pour peut-être protéger les places de certains de leurs leaders? On rappelle par exemple que comment s'appelle-t-il notre ami Pidcock est classé au général. Il est combien Pidcock? Il est 9e à 8,40.
On a Geraint Thomas 3e, on a Adam Yates 5e, on a Pidcock 9e.
Là, ce serait plutôt pour protéger Pidcock, le classement de Pidcock, non? De top 10?
Je ne vois pas l'intérêt de mettre toute l'équipe en tête. Mais ils ne prennent pas un seul relais.
Ils ne roulent pas. C'est Christophe Laporte uniquement qui roule. Pour l'instant, c'est pour ça que l'écart continue de grandir. Christophe Laporte, il ne peut pas réduire un écart sur 29 échappés à lui tout seul.
Non, ils sont positionnés là parce qu'ils pensent être plus en sécurité, peut-être, tout simplement. Mais ils prennent aussi un peu plus devant. Mais bon, ça c'est leur problème, ils pourraient être en 15e position, ça ne changerait rien.
Ok, en deuxième t'es parfaitement protégé, très bien pour toute la formation Ineos. Alors on le rappelle, même si Marc Soler aujourd'hui est en difficulté, mais les Jumbo l'ont été avant-hier, Jérôme, avec donc l'abandon sur blessure de Kreuzweig et l'abandon également au matin de Primoz Roglic. Du coup, bah, ce sont deux lieutenants très importants du dispositif Jumbo et pour Vingegaard qui sont en moins dans cette équipe. On est à l'attaque des Pyrénées. Est-ce que ça peut avoir une influence? Est-ce que ça va être plus difficile pour la Jumbo de contrôler et de protéger Vingegaard?
Bien sûr, hein, quand vous perdez deux de vos meilleurs éléments en montagne, il en reste plus qu'un pour Vingegaard, c'est Sepp Kuss. Alors on a Van Aert qui fait un peu tout, là il s'est glissé dans l'échappée. Quand vous passez de trois super grimpeurs, parce que Kreuzweig avait quand même un niveau incroyable depuis le départ de ce tour, Roglic en super coéquipier, quand vous en perdez deux sur trois, ça paraît compliqué. L'équipe de Pogacar, elle était plus faible avant cette étape de dimanche et finalement ça a redistribué les cartes, même si on le répète, Soler est en difficulté, donc Pogacar perd aussi un coéquipier, mais numériquement on va dire l'équipe UAE maintenant au niveau de la montagne est mieux armée avec McNulty ou Maika par exemple. Mark Hirschi qui a l'air en tout cas aujourd'hui toujours aux côtés de Pogacar, donc qui a l'air un petit peu mieux. Voilà, la force est retombée du côté d'UAE, à voir s'ils s'en servent dès aujourd'hui ou s'ils attendent demain et après-demain avec les arrivées au sommet.
Justement, le scénario pour les cadors du peloton, Cyril, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'ils vont à nouveau s'affronter, Pogacar et Vingegaard? On rappelle que Pogacar, à 5 jours de l'arrivée désormais sur les Champs-Elysées, 5 ou 6, je ne sais plus, est toujours à 2 minutes 22. Il faudrait quand même commencer à grappiller. On l'écoutera d'ailleurs, je ne sais pas si on peut l'écouter tout de suite, Tadej Pogacar, qui disait il va falloir quand même que je m'y mette un jour pour rattraper des secondes, Cyril.
Ben, oui, il a 3 étapes pour refaire une partie ou la totalité de son retard sur Vingegaard. Donc aujourd'hui, à un moment ou à un autre, bien sûr, si il a les jambes, parce que c'est bien beau de dire on va attaquer partout, mais pour attaquer, il faut encore avoir la capacité à le faire. Donc s'il a la capacité à le faire, je pense que Pogacar n'hésitera pas à poser quelques banderies. Et si Vingegaard n'est pas dans un grand jour, peut-être qu'il pourra reprendre quelques secondes. N'oublions pas que la configuration de cette étape, on va attaquer à 63 km de l'arrivée, la première difficulté. Le col de l'Hers. Est-ce qu'il faut attaquer dans le col de l'Hers ou attaquer dans le mur de Peyer? Sachant là aussi, et on parlait tout à l'heure des équipiers qui peuvent être présents, sachant que le sommet est à 27 km de l'arrivée, sur une descente qui est une descente où on est en prise, donc pas une descente très rapide, pas une descente où techniquement on peut faire des écarts. Si vous vous retrouvez avec, imaginons un seul instant que Pogacar arrive, il va prendre 25, 30 ou 40 secondes même à Vingegaard à 27 km de l'arrivée, c'est-à-dire au sommet, et que Vingegaard se retrouve avec le seul et unique, et ça suffira, Van Aert qui est à l'avant, ils vont aller chercher Pogacar. Alors si on est dans cette situation-là, est-ce que véritablement mettre des banderies, oui, tenter de tout faire exploser, ça c'est encore un autre problème. Mais vous savez, il y a une chose qui commande, alors il y a les oreillettes et les directeurs sportifs, il y a le coureur qui peut penser que, mais la réalité, c'est t'as les cannes ou tu les as pas.
Est-ce qu'il a les cannes, Tadej Pogacar? Écoutez ce qu'il nous disait hier lors de la journée de repos, justement, sur cet écart qui le sépare de Jonas Vingegaard.
Je dois réduire tout l'écart avant le contre-la-montre. Je connais le parcours, je l'ai en tête, je l'ai fait 2 fois. Je ne sais pas le temps que je pourrai gagner ce jour-là, donc je vais essayer de gagner le plus de temps possible avant. Je suis confiant, les jambes vont aller, je vais essayer d'attaquer de loin, de moins loin, j'essayerai tout. On verra, on va avoir 3 jours super durs.
Tadej Pogacar, donc, qui nous dit qu'il va tout tenter, attaquer de loin, de moins loin, il va tout attaquer et surtout, évidemment, essayer de réduire cet écart de 2 minutes 22 à l'heure actuelle. On est à 80 km de l'arrivée et on va se retrouver dans quelques instants. L'écart est stabilisé à 7 minutes 30 désormais entre les 29 hommes de tête et le peloton. Marc Soler, lui, est beaucoup plus loin avec un retard de 12 minutes. 14h58, les infos de 15h arrivent. On se retrouve juste après pour la suite et notamment l'attaque de la première difficulté du jour, le port de 11 km 400 à 7% de moyenne. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.